Devine qui vient dîner. Michel Durand-Valade.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Pourquoi apprendre à écrire ? Et je ne parle pas évidemment de cet effort naturellement consenti dans l'enfance, trait, rond, bâton, lettres, majuscules, minuscules, abécédaires, B, A, ba. Non, je parle bien de l'écriture littéraire, de celle qui nous fait raconter nos vies, celles des autres, ou inventer les histoires les plus folles. Bref, de cette écriture qui écrit le monde depuis que nous nous sentons le droit et le devoir, peut-être même, de le raconter. J'ai toujours pensé, ne l'étant pas moi-même, qu'on devait probablement naître écrivain et qu'il suffisait d'écrire pour l'être écrivain. Écrire et encore écrire inlassablement jusqu'à trouver l'accord parfait entre sa pensée et ses mots. Et puis lire aussi certainement, beaucoup et tout aussi inlassablement. Se pénétrer de littérature, de phrases, de pensées, de sensations, de sentiments, d'images, d'expressions de ses sentiments, de mots, de syntaxe. J'ai toujours donc pensé que l'écriture était en fait une sorte de muscle qu'il fallait entraîner pour qu'il devienne fort, souple, rapide, soumis à la volonté de l'auteur. Le tout évidemment dans l'intimité de son être, dans l'honnêteté de sa propre pensée. Et pourtant, il existe, pas beaucoup, mais enfin il existe des écoles pour apprendre à devenir écrivain. Après tout, me direz-vous, il existe bien des écoles pour devenir coureur de 100 mètres. Alors si c'est affaire de muscles, finalement, pourquoi pas ? Bonsoir Marie Cafari.
Bonsoir.
Ça vous énerve hein, quand on dit ça, quand on pose la question pourquoi apprendre à écrire ? On va en parler. Marie Cafari, vous êtes la directrice de l'Institut littéraire suisse, installée à Bienne depuis 2006. Comment vous définiriez cet endroit ?
C'est un endroit où tout ce que vous venez de raconter sur l'intimité, sur la nécessité de réfléchir, d'être aussi seul, mais de s'entraîner, de muscler peut-être quelque chose, certainement dans la tête, de lire, d'entrer dans des univers littéraires, c'est un endroit où tout ça est possible.
Et pourquoi le faire alors en groupe et sous le regard critique ou peu importe, hein, sous le regard d'autres ?
Parce que les textes littéraires qui nous plaisent, qui nous occupent, qui nous préoccupent, qui nous énervent, qui nous stimulent, cherchent des lecteurs, des lectrices. Et ils peuvent déjà chercher des lecteurs et des lectrices avant d'être publiés, avant d'être mis en onde ou mis sur papier.
Mmh. On constate, mais par rapport à ce que vous dites, on constate que dans la plupart des livres, à la fin ou au début, sont remerciés X personnes, dont celui ou celle qui a lu si attentivement, qui a reçu chapitre après chapitre, qui a émis ses critiques avec tant de bienveillance, etc. Il y a toujours à côté de l'écrivain cette personne. Il y en a une ou plusieurs, mais enfin il y en a en tout cas une précieuse et qui est vraiment le premier lecteur et le confident.
Oui, tout à fait. Et puis l'idée de l'Institut littéraire suisse, elle vient pas de lecteur, elle vient d'un auteur. C'est un auteur qui a eu cette idée, c'est Guy Crenetta. Et donc, il lui-même cherchait, probablement, alors qu'il était jeune, autant il est encore jeune, il y a une quarantaine d'années, mais alors qu'il avait peut-être 25 ans, ce premier lecteur, il l'a cherché, il ne le trouvait pas. Alors, il avait peut-être des amis, il avait des échos sur son travail, mais il ne trouvait pas quelqu'un qui lui donne un écho, peut-être critique, appuyé, parce que des amis qui lisent vos textes, quand vous êtes jeune écrivain, vous en trouvez beaucoup, mais
on n'est jamais très sûr.
Ils vous apprécient, oui. Ils vont faire une critique qui est probablement très bienveillante, parfois trop bienveillante, en laquelle on peut avoir tout à fait confiance. Si on vraiment veut chercher un regard un peu aiguisé littérairement, très vite on va chercher cet autre lecteur, ce premier lecteur qui peut se mettre à distance de moi en tant que jeune écrivain.
Mmh. Idéalement, ça pourrait être l'éditeur, mais ça veut dire qu'on est déjà dans un processus d'édition, ce qui n'est pas toujours le cas quand
on est un
jeune auteur.
Et de production, et de vente, et de grand public. Qui est bien sûr important, mais qui déforme bien sûr aussi le regard critique ou qui le place sur vraiment l'arrivée du texte, le résultat final, le produit, l'objet fini. Alors que ce premier lecteur, il intervient en amont, un moment où le texte est encore plus malléable, où des questions peut-être plus fondamentales peuvent encore se poser, où justement on peut essayer diverses choses, on peut encore expérimenter avec ce matériau qu'est le texte.
Marie Cafari, vous nous en dites davantage sur le père, en quelque sorte, sur celui qui revendique la paternité de cet institut littéraire suisse à Bienne, Guy Crenetta.
Guy Crenetta, alors c'est un jeune auteur, c'est un dramaturge, il écrit principalement pour le théâtre, il écrit, et c'est sa particularité, principalement en suisse-allemand, des pièces de théâtre encore aujourd'hui, et à ce moment-là, ça fait vraiment maintenant pratiquement 10 ans en fait, il connaissait des auteurs qui, en Allemagne, avaient la chance d'être intégrés à une formation, qui avaient donc des échanges nourris, et des échanges critiques avec des collègues, plus expérimenté, qui avait déjà une certaine notoriété comme auteur, mais aussi avec des collègues au fond, au même niveau, avec des pairs, hein, avec des gens avec qui on peut entrer en discussion sur des processus de travail qui sont parfois difficiles, qui sont en méandre, en zigzag. Et il a vraiment cherché ça et c'était pas possible de le faire en Suisse. Et comme c'est quelqu'un de très créatif, pas seulement dans sa production littéraire, il a imaginé qu'en Suisse, on pourrait créer aussi un institut littéraire suisse, que cet institut ne devrait pas être seulement en allemand, mais devrait être ouvert aussi à des francophones, qu'il pourrait, si possible, s'intégrer à une école déjà existante, à une école d'art, c'est notre cas, puisqu'on fait partie de la Haute École des Arts de Berne. Il a mis en route vraiment ce projet de son côté, en dialogue avec des collègues auteurs. À ce moment-là, il était déjà publié, ses pièces étaient déjà jouées. Et puis, il a trouvé, en 2003-2004, la Haute École des Arts de Berne, qui venait de fusionner, qui réunissait toutes les disciplines artistiques,
sauf l'écriture.
Sauf l'écriture, et qui était ouverte à cette proposition. Puis à partir de là, à partir de 2005, les choses se sont accélérées.
Mmh. Comment on devient directrice d'une telle institution ou d'un tel institut, Marie Cafari?
Je pense qu'on le devient en étant lectrice. Hein. C'était mon cas. Moi, ma profession, c'est d'être lectrice. Et je suis une lectrice.
Quelle chance. C'est un métier, ça existe, lectrice.
Mais je suis une lectrice qui s'est toujours intéressée au moment de la production du texte, à la question que pose, par exemple, Michel Butor dans un essai, d'où ça vous vient. Je me suis intéressée à ce moment-là. Et à l'université, je trouvais pas tellement d'interlocuteurs pour réfléchir avec moi à ce moment un peu mystérieux, quoi, de la création du texte, du processus et du jaillissement, puis après de la mise en travail de ce jaillissement. Enfin, ça jaillit, puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc moi, je me suis beaucoup posé pendant mes études des questions là-dessus. Et au moment, enfin, c'est après, il y a le hasard, bien sûr, au moment où l'Institut littéraire suisse est en gestation. J'ai postulé, puis j'étais d'abord responsable du projet, co-responsable, puis ensuite de l'institut. Mais à la base, oui, je suis une lectrice qui s'intéresse au travail des auteurs.
On reviendra d'ailleurs sur non seulement sur ce processus, mais surtout sur celui de la création de cet institut et de son cursus. Parce que créer un institut, y faire entrer des étudiants, les suivre pendant 3 ans, ça suppose toute une réflexion en amont sur la manière de les faire travailler, de les guider, de les regarder, de les aider, hein, à faire jaillir et à organiser leur inspiration et leur envie d'écrire. Marie Cafari, vous n'êtes pas venue toute seule, comme conseiller d'ailleurs. Il semblerait que vous ayez apporté des preuves tangibles de la validité de cette formation universitaire. Vous nous présentez votre invité.
Oui, donc j'ai invité Antoinette Richner, qui est jeune auteur, qui faisait partie de la première volée d'étudiants de l'Institut littéraire suisse, qui a commencé
2006,
en 2006. Et Antoinette, elle partage avec ses collègues de ces premiers 14 étudiants le privilège un peu étrange d'avoir déposé un dossier de candidature, donc d'avoir envoyé un dossier de texte pour faire un bachelor en écriture littéraire en 2006, alors même que nous, responsables de l'Institut littéraire suisse, ne savions même pas s'il allait pouvoir ouvrir ses portes. C'était en avril 2006.
Mais vous aviez déjà fait appel à candidature. Donc.
On avait fait appel à candidature parce qu'on voulait absolument ouvrir en octobre. Et c'était, voilà. Et la première fois que j'ai vu Antoinette Richner, c'était en avril 2006.
Bonsoir Antoinette Richner.
Bonsoir.
Active depuis 2000 dans les milieux du théâtre, plus particulièrement dans celui de la scénographie. Pourquoi, on reviendra sur ce que vous faites, parce que vous écrivez pour le théâtre, pas seulement. Pourquoi en 2006 précisément choisissez-vous de vous inscrire au tout neuf et tout frais Institut littéraire de Bienne?
Parce que j'y ai vu l'opportunité de consacrer un temps intensif à l'écriture.
Ça vous manquait? Vous n'aviez pas pour vous ce temps-là?
Non, parce que c'est un temps qu'il faut gagner, des fois contre la vie, contre les obligations de la vie. Il faut toujours se battre pour le préserver. Et j'ai l'impression que ça me donnait aussi une sorte de légitimité, déjà dans mon entourage, de pouvoir dire, maintenant je vais à l'école, donc c'est un temps qui est consacré à ça. Et c'est très différent que de dire, ben, je m'enferme dans un petit coin de bureau et je fais un truc un peu mystérieux que personne ne verra, ou alors voilà, je vais faire lire. C'est vrai qu'on a parlé un peu de cet élargissement du cercle des lecteurs, puis moi je l'ai vécu tout à fait comme ça.
Est-ce que c'est aussi de s'inscrire dans un institut littéraire, de se dire, bon, je vais aller apprendre, entre guillemets, on va voir que c'est pas aussi simple, on n'apprend pas à devenir écrivain, je pense, malgré tout, je pense qu'on l'est. Ensuite, c'est une autre affaire, mais est-ce que c'est aussi une manière de s'inscrire dans un cursus de ce type-là, d'officialiser une activité, de dire à un moment, certes je suis étudiante, mais je prends en main une forme de destin et je mets sur ce que je fais un titre, et ça s'appelle écrire, et je suis écrivain. Alors en apprentissage, en ce qu'on voudra, mais je décide de l'être.
Oui, tout à fait. Si vous êtes invité un soir et que, évidemment, les amis d'amis vous demandent « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», il y a toujours ce moment-là, c'est quand même délicat de répondre « je suis écrivain ».
Ça ne vient pas immédiatement. Vient encore,
oui. Oui, non, c'est plutôt quelque chose que j'aurais eu tendance à garder pour moi. Mmh. Et c'est vrai que le contact peut-être avec les mentors, avec les auteurs intervenants, ça donne tout d'un coup une réalité à cette professionnalisation qui était complètement fantasmée jusque-là. En fait.
Donc aujourd'hui, vous dites...
Maintenant, si j'arrive, ce que vous faites, maintenant je dis, je suis écrivain, parce que c'est aussi la réalité que mes revenus depuis une année proviennent exclusivement de l'écriture. Donc c'est aussi une fierté, c'est vrai.
Mm-hmm. Ah bah, j'espère, pour le moins, c'est pas une honte en tout cas. Pourquoi, donc, 2006, 15 étudiants, j'imagine, 14, 15, pourquoi Antoinette Richner?
Il faut dire aussi qu'il y avait 86 dossiers.
Oui.
Et qu'on en a sélectionné 15.
Oui, mais ce soir, par exemple, pourquoi Antoinette Richner? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours en contact? C'est quoi? Il y a une amitié? Vous continuez votre métier de, votre activité de directrice? Vous continuez à porter sur Antoinette Richner? Est-ce qu'elle fait un regard professionnel? Vous la suivez d'une certaine manière?
Alors, en ce moment, je suis en contact avec presque tous les anciens étudiants, mais c'est facile puisqu'il y a seulement 3 volets qui ont terminé leur bachelor, donc ils sont très peu nombreux, c'est à peu près 45 personnes. Donc je sais à peu près ce que fait chacun, chacune. Et c'est vrai que comme il y a eu très peu ces dernières années d'étudiants de langue française, c'est beaucoup plus facile de les suivre. Je sais ce qu'ils font, on se croise, je les lis, je les relis, je lis quelque chose soit dans les journaux, donc on est forcément plus proches. Et je pense que ce lien privilégié que j'ai avec Antoinette, mais pas seulement avec Antoinette, que j'ai avec les anciens étudiants, il va rester, c'est un lien assez fort, mais il va s'estomper si je suis encore directrice dans 5 ans, forcément, parce qu'au bout d'un moment, il y a trop d'étudiants. Mais c'est vrai qu'avec les étudiants roman de ses premières volées, il y a un lien fort aussi parce que on était peu nombreux. Moi, je suis romande dans un institut qui est à majorité germanophone. Mmh. Et donc, on était aussi, je pense, soudés par ça, par la langue. Quand on se croise dans les couloirs, on se parle en français. Et puis, parce que, par le désir aussi très fort d'avoir plus de personnes de langue française qui viennent nous rejoindre et de, ensemble, même si les étudiants n'étaient pas responsables, ça c'était mon travail, mais au fond, ils étaient derrière moi, ils étaient les meilleurs exemples que c'était possible, qu'on pouvait venir à l'Institut littéraire suisse, qu'on pouvait y étudier, y être heureux, puis apprendre plein de choses. Mmh.
Petit exercice obligé, Antoinette Richner. Pas nécessairement facile à l'oral pour quelqu'un qui écrit, mais enfin, lancez-vous. Vous me feriez, tel que vous la connaissez, tel que vous la percevez, le portrait de Marie Cafari?
Donc on parle quand même du portrait de mon ex-directrice.
De votre ex-directrice.
J'espère que vous réalisez ce que vous
voulez. Oui, mais elle n'est plus votre directrice. Vous êtes à égalité maintenant.
Marie Cafari, je pense en tout cas, je dirais un esprit audacieux, parce qu'il fallait quand même organiser et puis mettre sur pied quelque chose qui n'existait pas du tout jusque-là. Puis un esprit courageux aussi, parce que ça a été très contesté et qu'il fallait le défendre en permanence, il faut continuer de le défendre, être la locomotive de tout ça. Un esprit aussi ouvert, parce que donc, quand j'ai commencé dans la première volée, la structure était assez souple, j'avais l'impression, en tout cas quand j'avais des réclamations ou bien des propositions, j'étais entendue. Ça débouchait pas forcément tout de suite sur quelque chose, mais au moins, je pouvais lui en parler.
Des réclamations?
Oui, c'est non. Je n'ai pas exigé d'être remboursée parce que je n'avais rien payé, mais en tout cas, si j'avais des critiques, oui, je pense qu'elle était prête à entendre aussi bien les louanges que les critiques. Mm-hmm. Et les suggestions aussi, si voilà, je pensais à un auteur comme intervenant ou... Voilà, où je voyais une défaillance dans la manière dont le cours était organisé. Et Je dirais aussi comme femme que c'était pour moi quelqu'un qui assumait ses responsabilités avec la classe aussi, donc j'étais aussi sensible à ça. Et le côté roman, c'est vrai qu'on en a parlé, je pense que je me serais peut-être sentie submergée quand même dans cette majorité de germanophones, sachant que l'autorité était romande, ça m'a aidée, je pense. Mmh. Ouais. Puis c'est vrai que maintenant, quand j'ai quelque chose qui sort, une publication, je l'envoie à Marie parce que j'ai l'impression que ça la récompense autant que moi, de ses efforts.
Très bien, en tout cas je suis ravie que vous soyez là l'une et l'autre et que nous parlions de cet institut littéraire de Bienne, qu'on en parle en Suisse romande et qu'éventuellement ça déclenche quelques envies, quelques vocations d'aller vous rejoindre. Je vous propose d'écouter un premier titre, je ne vais même pas l'annoncer parce que c'est l'initiale, hein, c'est elle. Quand je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, elle, ça pourrait être une fille plutôt. Merci Jean-Claude Gailly pour cette description extrêmement suggestive. Mescaline.
Ta mescaline, ton obsession. Je voudrais être ta seule bohème, tes fleurs, ton spleen ou ton poison. Rester muette et souveraine, sans un bijou, sans accessoire. Au mieux peut-être m'a mis en scène quelques dessous de dentelle noire. Je suis rien qu'une amoureuse au corps étrange et blême. Je suis rien qu'une emmerdeuse. C'est
Mescaline, c'était elle. Je suis bien contente d'avoir découvert elle. C'est beau. Et puis en plus, je faisais remarquer à Marie Cafari et à Antoinette Richner qu'il y avait des paroles dans cette chanson. Et je lui demandais si elle avait éventuellement des étudiants qui venaient apprendre à, peut-être un peu poète déjà, mais qui venaient apprendre à écrire des chansons, par exemple.
Alors, personne jusqu'à maintenant n'est venu avec cet objectif explicite, mais ça naît comme ça dans les marges. Il y a plusieurs étudiants qui s'y sont essayés, certains avec un relatif succès. Personne n'a encore chanté sur scène ou publié des chansons, mais c'est quelque chose qui est là, qui fait partie de l'Institut.
C'est pas un genre méprisable.
Pas du tout, non.
Aucun genre d'écriture.
Une belle chanson n'est jamais maîtrisable.
Non. En l'occurrence pas. Alors je prétendais tout à l'heure que l'on essaie écrivain, qu'il était peut-être illusoire de penser que l'écriture s'apprenait, sinon seul, sur sa table, avec son papier, son stylo ou son ordinateur, j'imagine qu'aujourd'hui c'est l'ordinateur qui l'emporte, et puis surtout avec son seul esprit, son seul cerveau, avec peut-être aussi la fréquentation naturelle et nécessaire de la littérature, celle des autres, mais ce n'est évidemment pas ce que vous pensez, ni vous Marie Caffari, ni vous Antoinette Richner. Laquelle commence peut-être l'écrivain ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être né écrivain ?
J'ai l'impression que c'est pas, j'y parlerai pas d'une malédiction, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui frappe quand même une fois pour toutes. Oui, j'ai l'impression que c'est une nécessité que j'ai toujours eue. Mm-hmm. Donc, j'opposerai pas forcément le talent, ou on pourrait l'appeler le souffle, ou l'inspiration, ou tout ce qu'on veut, la nécessité intérieure. Je ne l'opposerai pas du tout à un dispositif collectif comme il y a à l'Institut, parce que bon, d'une part, il y a ce concours d'entrée, donc je pense qu'il y a une équipe qui est là pour sélectionner des textes qui les intéressent, où il y a peut-être déjà quelque chose qui se manifeste à la base. Et puis après, en fait, peut-être le malentendu vient aussi de l'idée qu'on se fait, qu'on écrit à l'école, ce qui n'est pas le cas, à de rares exceptions près, certains ateliers.
Non, c'est pas là-bas qu'on apprend, ça c'est clair.
On écrit en fait vraiment dans une situation de solitude, et puis le mystère intime, il est intact, il est vraiment pas menacé. Et c'est seulement après, on donne donc ces textes, puis on reçoit des critiques sur les textes et on les retravaille. Mais j'ai l'impression que ce qui fait le moteur d'écriture, c'est quelque chose d'indépendant, qui pourrait aussi bien trouver sa voix d'une autre manière, finalement.
Par la peinture, par la musique ou par n'importe quoi
d'autre. Non, dans l'écriture, mais après, j'ai l'impression qu'il y a autant de chemin que d'auteurs, et puis je ne me sens pas plus légitime parce que j'ai fait l'Institut qu'un autre auteur qui serait autodidacte.
Marie Caffari, quand vous les voyez arriver, ces étudiants de première année qui ont des âges divers, parce que vous avez eu la sagesse, ça me paraît très évident de ne pas limiter l'âge. Enfin, j'imagine mais quelqu'un de 75 ans arriverait et vous dirait « je veux passer 3 ans dans votre institut », à condition qu'il est satisfait à des critères de candidature, enfin, vous le prendriez, par exemple.
Oui, c'est toute personne qui réussit, au fond, le concours d'admission peut faire le bachelor.
Quel que soit
son âge. L'âge en soi n'est pas un critère de potentiel artistique.
Donc, vous les voyez arriver, ces premières années. Vous sentez chez eux cette nécessité ? Ça vous paraît une évidence qu'ils sont là vraiment parce qu'ils ont la nécessité d'écrire, d'exprimer ce qu'ils sont, ce qu'ils sentent de cette manière-là?
Oui, c'est quelque chose. La sélection de 15 personnes sur, on a chaque année à peu près 80 dossiers, ça n'est pas une science exacte du tout. On travaille beaucoup avec notre intuition. On a effectivement quelques critères formels, et autrement, on discute avec les candidats et bien sûr qu'on lit leurs textes avec attention. Mais un des éléments que je repère assez aisément, comme je fais partie de ces commissions d'admission chaque année, c'est cette idée de la nécessité. Elle est exprimée de façon différente, mais l'idée que j'ai pas, en fait, je viens ici parce que c'est une possibilité dans mon parcours universitaire ou dans mon apprentissage, mais la nécessité d'écrire, elle va demeurer. Même si vous ne me sélectionnez pas aujourd'hui, je vais continuer d'écrire parce que c'est quelque chose qui m'accompagne. Et même si parmi les candidats chaque année, il y a des personnes qui ont 18 ans, cette nécessité, cet impératif s'impose comme une évidence.
Vous étiez au démarrage de toute cette aventure. Comment a été conçu précisément le processus de formation à l'écriture? Comment, par qui, sur quelle base de réflexion, puisque vous y avez à l'évidence participé?
Alors, ce qui est important de dire, c'est que j'étais pas du tout toute seule pour faire ça. J'étais, dès le début, le projet était intégré à la Haute École des Arts de Berne. Donc, j'étais entourée de collègues d'autres filières d'études. Hein, par exemple, les arts plastiques, les musiciens, mes collègues aussi de la section de théâtre. Dans la direction du projet, j'ai pas toute seule non plus. Je l'ai co-dirigé avec Daniel Rottenbühler, qui est aussi un très grand lecteur, puis un très fin connaisseur de la littérature suisse dans toutes ses langues. Et on a vraiment parlé. D'abord, la première ébauche du projet s'est faite en discutant avec nos collègues de l'école et puis en allant discuter, bien sûr, avec nos collègues des instituts littéraires, par exemple à Leipzig, de regarder aussi ce qui se faisait en Grande-Bretagne, dans les masters en creative writing, etc. On a vraiment étudié, on a exploré ce champ de la formation en écriture littéraire. Et au début, en tout cas pour moi, ce qui était assez clair, c'est qu'il fallait mettre l'accent sur les projets des étudiants. C'est-à-dire qu'il fallait partir d'emblée sur l'idée que la littérature, c'était quelque chose qui devait répondre à une grande diversité. Que l'Institut littéraire suisse ne serait pas un institut qui allait être un mouvement qui allait viser l'établissement d'un canon littéraire unique. Qu'on allait être ouvert à toutes sortes de formes, à des genres littéraires différents, à des impulsions différentes, que le corps enseignant allait être constitué de personnalités très diverses, qui abordent la littérature de façon très diverse, parfois contradictoire, parfois peut-être même conflictuelle. Donc ça, c'était déjà clair dès le début. Et donc ça voulait dire qu'il fallait d'emblée avoir une grande ouverture face à ce qu'amènent les étudiants dès qu'ils commencent. Et ça peut être des choses très diverses, ça peut être des choses aussi qui évoluent parfois de façon radicale en cours de 3 ans de bachelor. Mm-hmm. Et ça, c'était très important dès le début. C'est ce qui a, au fond, orienté tout le reste. Hein. C'est ce qui a donné aussi l'idée que pour suivre adéquatement ces projets, il fallait le faire de manière individualisée. C'est-à-dire qu'il fallait proposer à ces étudiants un suivi individuel de leur travail individuel.
D'où le petit nombre d'étudiants.
Oui, d'où le petit nombre. On a un numerus clausus, mais bon, il faut imaginer que là, au-dessus, il y a encore une structure, qui est une structure d'une haute école spécialisée, qui s'intègre dans une structure cantonale, fédérale,
etc. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas perdu.
Vous n'êtes pas tout seul, et puis bien entendu que tout ça est observé de très très près par des autorités.
J'imagine.
C'est impossible de former plus de 15
quand vous par dites, année. Oui, quand vous dites que c'est observé de très très près par les autorités, c'est-à-dire que vous êtes toujours un peu sous le feu de critiques, de craintes.
Alors non, là maintenant,
non,
c'est presque
bon.
Un grand
le diplôme
de
est aujourd'hui
soulagement.
Validé.
Voilà. Le diplôme a été accrédité. Toute nouvelle filière HES doit être accréditée par des instances qui sont externes, puis qui produisent un rapport qui est ensuite révisé par les instances fédérales très sérieuses. Et donc le bachelor en écriture littéraire est accrédité. Donc nous sommes tranquilles pour plusieurs années. Après, bien sûr que cette accréditation, elle est périodiquement revue. Mais bon, c'est pas très agréable, on est examiné en groupe, on regarde très précisément ce qu'on fait, si on entre dans certains cadres, si le cadre financier est correct, etc. Donc c'est pas seulement poétique et artistique, hein, ce qui se passe là, c'est parfois très bureaucratique et technocratique. En même temps, on a quand même la chance d'être une école publique, quoi. Nos subventions viennent du contribuable, donc c'est important aussi qu'il y ait certaines personnes qui regardent un petit peu ce qu'on fait.
Alors, vous l'avez dit, ce sont 3 années d'études validées par un diplôme, par un bachelor, donc aujourd'hui reconnu par l'Office fédéral de la formation professionnelle. 3 années d'études dont on valide de quelle manière la progression des étudiants. C'est-à-dire comment on voit qu'un étudiant progresse. En quoi progresse-t-il d'ailleurs? Parce qu'il arrive avec un texte, avec des convictions, avec une envie, avec un jaillissement, avec une forme, avec tout ce qu'on voudra, plus ou moins élaboré. Mais en quoi voyez-vous qu'il progresse?
Alors, on voit ce qui progresse le plus nettement, c'est la qualité littéraire des textes, ou les qualités littéraires des textes, qui une fois de plus peut être
très difficile.
Oui et non.
Oui
c'est
et non.
Un texte, je sais pas, un texte dramatique répond à certains impératifs intrinsèques à ce texte, enfin, qui n'appartiennent qu'à ce texte. Il y a des personnages qui évoluent dans une certaine logique, dans un certain espace, avec certaines préoccupations, dans des conflits. On peut entrer dans ce texte, on peut regarder, est-ce qu'il y a une cohérence interne à ce texte? Et on peut, en fonction de ce texte, je ne dis pas que c'est facile, mais on peut, en fonction de ce texte, réagir à ce que propose ce texte, avec des questions, avec quelques critiques, avec des louanges, aussi avec des encouragements. Donc la qualité de chaque texte, moi je pense qu'elle est vraiment objectivable. Une fois de plus, c'est pas facile, mais c'est possible, hein, dans la lecture attentive d'un texte.
Oui.
Et d'un projet aussi,
J'imagine que, tout comme nous, vous recevez, enfin l'Institut littéraire suisse reçoit quantité de d'ouvrages édités de diverses maisons d'édition. Vous vous rendez compte à quel point le niveau littéraire n'est pas bien élevé. Je parle pas. Non, il peut y avoir de très jolis témoignages. Enfin, la question n'est pas là. C'est pas le contenu qu'il conviendrait d'attaquer, mais très souvent, c'est écrit à la va comme je te pousse. Je suis pas sûre que les éditeurs fassent encore exactement leur boulot. Certains le font et à l'évidence pas du tout. D'autres essayent de le faire le mieux possible. Enfin, le niveau littéraire du 98% de ce qui sort est souvent assez consternant. Reste 1, 2, 3% de textes véritablement littéraires. Donc c'est difficile de dire à un moment, écoute, ton texte, il serait peut-être édité par machin bidule ou truc, mais il est pas abouti, il est pas terminé, il est pas fini, il n'est pas suffisant.
Mais ce qui progresse aussi chez les étudiants pour qui le bachelor est quelque chose de productif et de constructif, c'est aussi la réflexion personnelle sur son propre travail, la capacité de se situer par rapport à son travail, de savoir ce qu'on fait. Ça a l'air d'une évidence, d'une totale banalité, ce que je dis, mais ça ne l'est pas du tout. C'est très difficile d'arriver à se situer à l'intérieur d'une bibliothèque infinie et de dire voilà ce que j'essaye de faire, voilà les moyens que je me donne pour le faire, voilà ce à quoi je suis arrivée. À dire aussi pour certains étudiants à un certain moment, je m'arrête là parce que voilà ce que j'arrive à faire de mieux en ce moment. Et je veux arriver, bien sûr, je suis ambitieux, je veux continuer, mais pour ce texte, pour ce projet-là, voilà la cohérence du projet. Et ça, et à ce niveau-là, on remarque aussi une progression entre la première et la dernière année.
Quand on pense littérature, on pense immédiatement à son expression la plus noble, entre guillemets, c'est l'expression romanesque au sens très large. C'est-à-dire, métier d'écrivain, ça va de soi. Je suppose qu'il y a évidemment toutes sortes d'autres voies à explorer avec l'écriture. Et pourtant, apparemment, la majorité des étudiants qui viennent vous voir ont pour but de devenir écrivain, publié et éventuellement célébré. Mais ça, c'est une autre affaire, mais... En tout cas, publier. Le projet vers ce métier d'écrivain.
Oui, ça fait partie aussi de cette nécessité, je crois. La nécessité d'écrire, d'être lu, et puis d'écrire des textes qui sont de haute qualité littéraire. Un goût du texte littéraire, un goût pour la langue, pour le travail avec ce matériau littéraire, pour le retravail, pour la lecture aussi. Voilà. Et je pense que pour traverser ces trois années qui sont très intenses, avec un relatif succès, effectivement, l'idée de cette ambition d'être auteur, je crois qu'elle est très importante. Alors, bien entendu que certains étudiants commencent à 18 ou 19 ans, ils sont bien sûr conscients que le chemin sera très long, qu'il y aura justement, comme je disais tout à l'heure, des détours, des obstacles. Je crois que pour devenir écrivain, comme vous disiez tout à l'heure, il faut peut-être ce talent, ce quelque chose que les étudiants ont déjà quand ils arrivent. Et puis, il y a aussi des éléments de la biographie. Il faut que la vie soit...
Cohérente
et permettre que l'écriture continue de se déployer. Et puis il faut un désir d'écrire qui reste tout le temps là, qui soit vivant, qui soit fort.
Oui, qui se renforce même avec le temps, parce que souvent c'est encore plus difficile plus le temps passe. Au vu de sa situation, évidemment, Bienne est une ville, vous l'avez dit, bilingue. Donc l'Institut littéraire suisse de Bienne est donc aussi bilingue. Cela dit, je suppose que le peu de francophones qui s'y inscrivent sont des gens sensibles à la langue allemande ou pas du tout.
Ce qu'on exige des candidats, c'est une ouverture à la langue voisine. De la même façon, des germanophones et des francophones, les germanophones doivent être prêts à s'entretenir avec leurs collègues de textes de langue française. Et cela dit, il y a de plus en plus de francophones. Là, dans le groupe de première année, sur 14 étudiants, il y en a 5 qui sont de langue maternelle française. Et on a beaucoup plus de dossiers. On avait beaucoup plus de dossiers d'admission l'année dernière. Donc, je pense qu'on va évoluer vers à peu près un tiers de francophones, 2/3 de germanophones, ce qui fait qu'on a un véritable groupe de francophones à l'intérieur de l'Institut, mais qui, bien sûr, doivent être aussi ouverts que leurs collègues à l'autre langue, à la langue voisine, à la lecture dans l'autre langue.
C'est-à-dire qu'il y a des avantages palpables à tenter de maîtriser ses intentions, son expression dans une langue qui n'est pas la sienne, qui n'est pas sa langue maternelle.
Moi, je pense que oui, mais bon, j'ai un avis totalement subjectif là-dessus parce que j'aime beaucoup lire des textes aussi dans d'autres langues. J'aime parler dans d'autres langues aussi. J'ai l'impression toujours d'un décalage, d'une mise à distance.
On n'est pas toujours exactement la même personne.
Voilà, d'une grande liberté dans la langue étrangère, aussi d'un goût littéraire qui n'est pas nécessairement le même si je lis des textes en anglais ou en français. Et donc, je pense que là, il y a un véritable enrichissement. Et je pense qu'aussi en Suisse, c'est un avantage énorme de pouvoir au moins se débrouiller dans une des autres langues nationales pour pouvoir comprendre, ne serait-ce que, je parle, le champ littéraire zurichois. On en est à quelques centaines de kilomètres, on ne sait pas du tout ce qui s'y fait. Aller assister à une pièce de théâtre au Schauspielhaus à Zurich, c'est une véritable chance, c'est une ouverture. Donc là, je suis persuadée qu'on a intérêt à fonctionner comme ça en Suisse. Heureusement, je ne suis pas la seule, mais c'est vrai qu'on reste encore une exception.
Antoinette Richner, vous l'avez dit, il y avait un peu de frustration à se sentir si peu de romans. Malgré tout, vous retirez quelque chose de cette expérience. Je ne sais pas si vous l'avez menée le plus loin possible, mais en tout cas,
oui,
peut-être.
J'ai participé à quelques ateliers
en suisse allemand.
En écrivant en français, mais en recevant mes retours en allemand. Puis je pense que ça m'a profité. Oui. Déjà l'effort intellectuel de lire les textes des autres dans la langue étrangère. Et peut-être aussi, si on devait parler de nos intentions sur un texte en cours, ça m'obligeait à les préciser parce que mes moyens étaient quand même limités pour les exprimer. Oui. Donc j'étais obligée d'aller à l'essentiel, alors qu'en français, je peux toujours un peu broder pour... Enfin, rester flou, je pense.
D'accord, rester flou.
Et puis, c'est vrai que l'effort d'ouverture, après connaissant certains auteurs, j'ai plus volontiers... fait l'effort de prendre le train, aller à Zurich, voir un spectacle, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant.
Il y a des différences notables dans la manière d'aborder la littérature entre germanique et francophone ?
J'en repère pas, je repère toutes sortes d'approches différentes. Et en tout cas, alors il y a une différence notable dans l'approche du métier d'écrivain. Je crois que l'approche des Allemands ou de nos collègues de Suisse alémanique est beaucoup plus décomplexée. Quoi. Être écrivain, être auteur, c'est un métier, on peut en parler, on peut parler du comment faire, comment devenir, comment pratiquer, comment ça. Il y a l'idée que, effectivement, certaines personnes ont de très bonnes idées, ont peut-être une certaine, comme ça, une puissance créative, bien sûr, mais il y a aussi tout là autour, l'idée de la pratique artistique, de la lecture, du dialogue entre collègues, de la rencontre,
du marché,
du réseau, etc. Je pense là que nos collègues de langue allemande, même de Suisse, ont un rapport beaucoup plus direct et simple avec ces questions-là.
Ce qui n'est pas le cas de l'espace francophone où la littérature, c'est vraiment un peu chacun pour soi. Les auteurs n'aiment pas tellement se rencontrer, n'aiment pas tellement échanger. Ce serait vraiment chacun plutôt chacun pour soi. Ici, alors en France, à l'évidence, en Suisse, se romande peut-être aussi, non ?
Oui et non, peut-être les choses sont en train de changer.
Les choses changent.
On se rencontre quand même beaucoup à l'Institut littéraire.
On a créé un petit collectif avec 3-4 auteurs de théâtre. Et puis, parce que simplement, on a vu qu'on avait les mêmes affinités, les mêmes problèmes. Et puis que pour faire la promotion, faire un petit tir groupé, ça pouvait quand même nous aider. En fait.
Vous insistez beaucoup sur le mentorat. Modèle d'ailleurs, je pense que ça se dit mentorat, oui sûrement,
oui.
Modèle d'ailleurs spécifique à Bienne, puisque chaque étudiant entretient une relation que je suppose étroite avec un mentor ou une menta. Alors ça, je ne savais pas qu'on disait menta du coup. C'est vous qui avez inventé ? Non, c'est pas
oui,
une invention.
Oui, il a fallu aussi un néologisme qui existait déjà.
D'accord. Là encore, comment les choisissez-vous ? Par exemple, Antoinette Richner, qui était votre mentor ou votre manta en l'occurrence ?
Moi, c'était Antoine Jacoux,
oui.
Sur les 3 ans.
Oui. Et comment se tisse la relation avec un auteur dit, confirmé, quand on est soi-même un jeune auteur ?
Dans le respect, je pense, déjà.
Parce qu'en même temps, on sent que c'est quelque chose de très intime. On va travailler sur de l'intime, sur du très sensible. J'imagine qu'il faut créer la relation la plus étroite et la plus confiante possible.
Oui, je pense que ça se passe à plusieurs niveaux. Mais c'est vrai qu'il y a l'aspect purement critique et commentaire. Il y a l'aspect un peu théoricien, enfin, c'est tout à coup quelqu'un qui a une culture, qui a un savoir-faire, qui va peut-être m'aider à situer mon texte dans ce qui existe de voisin, qui va me donner des références de bouquins qui vont m'aider après à situer justement. Puis après il y a un aspect un peu psychologique, quoi. Enfin, aussi de soutien, forcément qu'il y a des phases de découragement, des choses comme ça qu'il faut traverser un peu. Je pense d'être accompagné là, ça peut... Ça peut aider parce que c'est des phases qu'il connaît aussi, vu qu'il est écrivain lui-même. Donc il peut repérer plus vite quand je pars un peu. il peut prévoir certaines difficultés, je pense.
Aucune tentation à l'imitation ? Entre un jeune...
Si, mais je pense que c'est plutôt bien, en fait, parce qu'il y a des phases où on est influencé, et puis ça peut aussi marcher dans un sens de répulsion. On peut aussi, d'un coup, se dire, non, mais ça, vraiment pas.
C'est vraiment pas moi, ouais.
Et puis, ça marche par attraction-répulsion. Puis, finalement, on est tellement sollicité, on lit tellement aussi les lectures de ce que les autres étudiants écrivent. Donc, c'est aussi dans le paysage qu'on arrive à avancer en maintenant, en se disant, ben, moi, en fait, c'est ça que je veux faire.
C'est finalement, dans ce frottement, une manière de découvrir et d'affirmer son identité littéraire.
En tout cas, apprendre à faire des choix. Puis c'est quand même, dans l'art, dans la création, c'est le plus important, presque.
C'est même le plus important, me semble-t-il.
Et puis la question de l'imitation et de l'influence, elle se pose aussi en dehors d'une relation de mentorat et d'école. On peut être très influencé par des auteurs qu'on lit, qu'on admire énormément pendant une certaine période. Et cette imitation peut être aussi très, très productive.
J'aimerais bien qu'on entende un de vos textes. Vous avez fait paraître aux éditions Gleb, c'était quand ?
En 2010.
Oui, c'est tout récent. Un recueil de courtes nouvelles. Certaines sont un peu plus longues que d'autres, mais à peine, sous le titre « Petite collection d'instants fossiles ». Vous l'avez écrit, vous l'avez en partie écrit à Bienne ou pas du tout ?
Oui, ça a fait pas. Ma thèse de bachelor, en fait, mon travail de sortie.
On leur demande d'écrire un livre, alors, en quelque sorte.
On ne leur demande pas ça, mais certains le font.
Certains s'y mettent.
Oui, il a encore vécu un peu sa vie après l'examen. Mais donc, c'était travailler avec Antoine Jacou, justement.
On vous écoute.
Pourquoi Bob ne mangera jamais ce yogourt aux fraises ? Il y a ce dernier yogourt dans le frigo, un yogourt aux fraises. Hier soir, Bob lui a dit « Martha, il ne reste plus qu'un yogourt ». Et elle lui a répondu « Serre-toi ». Mais il n'en a rien fait. Alors qu'il l'aurait pourtant bien avalé, ce petit yogourt. Rien que ce petit yogourt. Le danger que pressent Bob, selon elle, c'est que le frigo, lorsqu'on lui aura retiré son dernier bien, se résignera à dévoiler l'image la plus blanche, la plus nette et la plus sévère de son anatomie et qu'alors, fatalement, le pilleur en viendra à s'interroger sur les suites de son geste, ainsi que sur les fondements, pourquoi pas, les fondements de ce décret tacite qui fait que la charge des courses revient à Martha davantage qu'à Bob. C'est pourquoi, toujours selon elle, Bob a finalement décidé de reporter le moment d'y toucher.
Écoute, c'est toi qui conduis ou moi ? C'est moi, bon alors tais-toi. Y'a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. Écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré. Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors. Carlo, c'est ça le manque de peau. Flac la Jaguar fait une embardée et droit devant la vla qui pique dans le fossé. Et pendant que tous deux agonisaient, la radio a continué de gueuler.
Ça aussi, c'est du texte, hein? Du jazz dans le ravin, Serge Gainsbourg.
Oui, oui, tout à fait.
Vous disiez, ça aurait pas fait un bon mentor, mais...
Mais c'est un beau texte.
C'est un beau texte. Antoinette Richner, comment cette formation... Est-ce que vous arrivez très clairement à dire ce que ces 3 ans ont modifié en vous, ont transformé?
Ça a modifié... disons que je prends l'écriture au sérieux, beaucoup plus
que... C'était pas le cas avant?
Non, je crois pas. Enfin, disons que ça revenait toujours, j'écrivais de temps en temps quelque chose, mais j'avais un niveau de relecture et d'exigence qui était beaucoup moindre. Donc j'étais satisfaite beaucoup plus vite, et j'avais peut-être des ambitions plus faibles. Enfin, j'ai l'impression que... Ça a changé aussi parce qu'en 3 ans, il fallait toujours rendre des choses, plusieurs textes, plusieurs chantiers en même temps, des délais, donc apprendre à être cadré en fait, et puis à se dire, bah, maintenant il faut rendre ça, donc je termine, aller, ouais. quel que soit, voilà, tant pis si c'est
l'état pas... de la chose.
Ouais. Et puis cette aptitude en fait, simplement à pouvoir mener plusieurs choses en même temps, bah, maintenant je l'entraîne tous les jours en fait, parce que forcément qu'il y a plusieurs mandats qui se superposent, il y a ceci à rendre à tel. Tel, etc. Donc voilà, puis la prise au sérieux de, dans le sens de dire ben oui, c'est une profession, c'est mon activité, oui, je dois dégager du temps pour ça. Et ouais, ça, c'est un ensemble, je crois, une sorte d'entraînement. Mmh.
Vous partagez votre écriture entre le texte littéraire, comme celui qu'on vient d'entendre, et le texte scénique.
Oui,
l'écriture théâtrale, oui. la dramaturgie, je crois qu'on dit, hein, quelque chose comme ça.
L'écriture dramatique.
Voilà, oui.
Dramaturge.
Alors, j'ai un peu plusieurs manières de fonctionner dans l'écriture dramatique. Parfois, c'est des commandes de texte que j'écris chez moi de manière solitaire. Et parfois, je travaille directement avec les compagnies qui m'invitent. Et j'écris au fur et à mesure des répétitions. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Parce que du coup, c'est vrai qu'on est moins isolé, on est avec les comédiens, avec le monteur en scène, et puis ça avance en collectif aussi, plus ou moins.
Oui, c'est encore un autre travail, oui.
Ouais.
Puisqu'il est destiné effectivement à être lu fort, celui-là.
Oui, il est sonore.
Il est partagé.
Oui.
Et, alors, partagé par des comédiens, partagé par un public, enfin c'est encore une autre affaire.
Tout à fait, oui.
Qu'on enseigne également, enfin qu'on enseigne, qu'on aborde.
Oui, tout à fait, il y a des étudiants presque chaque année qui écrivent pour la scène, pour la performance ou pour le théâtre. Il y a d'ailleurs dans le domaine francophone une plus grande ouverture à ce dont on parlait tout à l'heure, l'idée du métier d'écrivain de la part des personnes qui écrivent ou qui travaillent dans le théâtre, parce que l'idée que d'autres personnes interviennent, qu'il y a des lecteurs en amont aussi, est beaucoup plus... beaucoup plus habituel, fait partie plus du quotidien des personnes qui travaillent pour le théâtre.
Alors j'imagine que c'est relativement facile, enfin entre guillemets, de trouver des professeurs pour enseigner l'analyse littéraire, l'histoire de la littérature, enfin les textes des autres, contemporains ou anciens. Mais quand tu as trouvé des auteurs qui soient d'accord de donner de leur temps pour aller guider des jeunes écrivains, j'imagine que ce n'est pas aussi simple que ça.
Non, ce n'est pas si facile, mais ils étaient au fond assez nombreux. En 2006, on n'a pas seulement sélectionné 15 étudiants, on a engagé une douzaine d'enseignants, dont la plupart travaillent encore à l'Institut, animent des ateliers d'écriture, mais travaillent aussi dans le cadre du mentorat, et qui étaient des personnes... passionnés par le travail de l'écriture littéraire, puis qui avaient envie de transmettre à d'autres, à plus jeunes, à probablement eux-mêmes envie d'entrer en dialogue sur le travail d'écrivain. Et donc ils entrent en dialogue bien sûr avec les étudiants, leurs étudiants, mais aussi avec leurs collègues, parce qu'on est un groupe au fond d'enseignants, on se côtoie, on discute beaucoup, on a beaucoup parlé, surtout au début de la construction de cette filière d'études, de ce qu'on voulait faire, comment ça fonctionnait mieux, etc. Il y a tout un processus de réflexion. Et donc c'était certainement des personnes qui avaient aussi envie de ça, qui avaient envie de dialoguer, de partager quelque chose. Mmh.
Bon, vous n'avez pas encore énormément de recul, mais enfin tout de même, 45 étudiants à peu près sont sortis, 3 volets. Que savez-vous, à part Antoinette Richner qui est là, de ce qu'ils sont devenus pour la plupart ou des voies dans lesquelles ils se sont engagés?
Alors je crois qu'il y a à peu près un peu plus d'un quart qui est resté engagé de façon très étroite et active dans l'écriture. Donc il y a des étudiants qui publient, qui écrivent pour le théâtre, qui se produisent, qui travaillent principalement dans ce qu'on peut appeler le champ littéraire. Pour d'autres étudiants, ils ont repris des études ou continué des études dans d'autres disciplines et continuent d'écrire. Et certains étudiants mènent plusieurs activités en parallèle. Mais ça, c'était déjà, anciens étudiants, c'était déjà le cas lorsqu'ils faisaient leurs études. En fait, ils avaient déjà une profession, ils étaient par exemple enseignants dans le primaire et ils exerçaient encore cette profession à temps très partiel et ils continuent au fond d'écrire et de mener parallèlement cette autre profession.
Comme beaucoup d'auteurs.
Qui
sont souvent d'ailleurs enseignants et souvent profs de français, curieusement, de littérature.
Et il y a beaucoup d'étudiants, j'ai pas le chiffre exact, mais ils sont nombreux à avoir obtenu des bourses de soutien, des soutiens à la création, à avoir publié dans des revues littéraires. Donc en fait, mon impression, c'est que pour les diplômés, ça se passe bien en ce moment. Personne n'est perdu. Donc je sais encore où tous et toutes vivent, ce qu'ils font. Ils nous donnent volontiers des nouvelles aussi. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire aussi que effectivement, ils arrivaient au début en 2006, puis après 2007, avec ce bagage, quoi, qui était vraiment leur bagage et qu'ils ont continué de le développer, que ce qu'ils ont apporté au début, au moment où ils débutaient leurs études, a continué de pouvoir se déployer.
On l'a dit tout à l'heure, on le répète, on n'entre pas comme ça, puisque 15 places, c'est pas beaucoup, à l'Institut littéraire de Bienne. Il y a un concours d'admission basé sur essentiellement sur des textes de candidats et puis évidemment une rencontre, une conversation. 15 étudiants par 23 ans et un cadre, on l'a pas dit, c'est un cadre. C'est quand on me dit Institut littéraire de Bienne, j'imagine une espèce de ces bâtiments universitaires pas très rigolo parfois. Non, c'est une très jolie vieille maison dont on suppose l'odeur des parquets cirés. Je vois pas qu'il n'y ait pas des parquets cirés dans cette maison. Et c'est certainement inspirant, Antoinette Richner.
Oui, c'est une maison qui a beaucoup de charme. Et c'est vrai que moi, j'avais l'impression d'être Harry Potter qui allait à l'école des sorciers. c'est un univers en soi qui s'ouvre. Ouais. C'est vrai, ça compte, je crois.
Ouais, jolie maison, jolie vieille maison.
C'est un cadre idyllique. On a eu beaucoup de chance. C'est une maison qui a été construite en 1900, qui appartient au canton de Berne. Le canton de Berne ne savait pas quoi en faire. On n'avait pas de locataire.
Mais
nous, on
arrive
là. Et ça convient parfaitement à ce qu'on veut en faire. Pour 45 étudiants, le corps enseignant, c'est parfait.
C'est juste la place qu'il faut.
Alors, ça ne sont pas le vernis, mais les parquets grincent.
Ah, c'est pareil. C'est parfait. Mais enfin, s'ils grincent, c'est qu'ils sont cirés.
Absolument.
C'est la cire qui grince. C'est pas le bois. Et puis un jardin dans lequel on peut s'installer pour écrire, pour lire, réfléchir.
Oui, mais en même temps, heureusement, ce jardin, il est proche du centre de Bienne. Il est tout proche de la gare. Donc, il y a une route très passante qui est juste à côté du jardin. Donc, on n'est pas détaché de la vie, du monde, des gens qui vont et viennent. Pas du tout. Et ça, je crois que c'est aussi très important.
Quand on voit les auteurs écrire dans des bistrots en fumée et bruyant, on se dit que c'est pas si grave que ça, que le bruit. Qu'on arrive à s'enfermer dans sa bulle. Antoinette Richner, quels sont vos projets ?
Actuellement, j'ai une commande d'écriture pour une compagnie qui s'appelle T2+, qui est basée à Lausanne. Donc j'écris un texte théâtral. Et sinon, je prépare une soirée jukebox, qui est en fait...
C'est une soirée jukebox.
Je vais vous expliquer le concept. Donc en fait, le public peut donner un jeton avec un mot. Et il y a une assemblée de 4 ou 5 auteurs sur scène avec l'intégralité de leur œuvre. Donc ça peut être le livre, l'ordinateur, tout ce qu'on a. Et on doit réagir, trouver un petit texte de 3 minutes qui correspond aux mots. Voilà, donc c'est avec Odile Cornu, une auteure neuchâteloise, que je fais ça. Et ce sera le 27 octobre au CCN à Neuchâtel. Et on a invité mes anciens mentors et intervenants. Donc il y a Antoine Jacoux, Eugène, qui est un écrivain qui intervient aussi.
Qu'on a souvent reçu dans cette émission.
Voilà. Et Michel Laya, donc je serais très heureuse de les voir réunis. Là.
C'est une jolie idée, il y a Lolita qui nous écoute et dit « Tiens, une histoire de jetons, 3 minutes pour trouver un texte qui correspond aux mots. » Belle idée, là vous venez de donner une bonne idée. Non mais bah, c'est breveté, Lolita ne peut pas faire n'importe quoi.
Je tiens à citer l'inventeur qui est David Lescaut, qui est un auteur dramatique français.
Ah bah voilà, donc, en plus.
À qui nous avons emprunté cette idée, avec son accord.
Donc là, évidemment, la rentrée s'est faite, plutôt que les rentrées universitaires. D'ailleurs, 19 septembre, non, une semaine avant déjà, vous aviez vos premiers étudiants.
On accueille les premières années,
Déjà, voilà. Oui. Puis 19 septembre, rentrée officielle. Si certains de nos auditeurs sont tentés par cette expérience et ressentent cette flamme, cette envie d'écrire et peut-être de perfectionner leur talent, leur art, leur écriture. C'est quoi ? C'est entre janvier et mars, il faut envoyer un dossier
Alors, les dossiers d'inscription, c'est entre janvier et mars, c'est jusqu'au 15 mars chaque année. Si on veut obtenir plus de renseignements, il faut aller sur le site internet. Mais on peut aussi venir nous rendre visite la semaine prochaine, le mercredi 19 octobre. On a une journée porte ouverte, l'Institut est ouvert toute la journée à toute personne qui s'intéresse à nos activités. C'est possible même de participer à un atelier qui est ouvert à toute personne. Il faut venir avec un texte, on peut assister à des cours, on peut discuter avec des étudiants, avec des enseignants.
Très belle idée. Merci Marie Cafari.
Je vous en prie.
Merci Antoinette Richner.
Merci à Marie pour son invitation.
On va faire un tout petit tour sur la route et puis on se quittera en compagnie de Pamela Mendes.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Vevey-Berne, les voies sont à nouveau dégagées entre les jonctions de Fribourg-Sud et de Fribourg-Nord dans les deux directions. Dans la vallée de Joux, la route cantonale Le Brassu-Le Pont est interdite au trafic entre le Lieu et le Séchet suite à un accident.
Running all the time, just to prove you are mine. But then you stopped one day. You said you don't want to run this way. And when things fall apart, I look for treasures in my heart. It's a hopeful whisper I hear. As the bruises disappear, and it's not about denying your shadows, love. But give your love, give your love. It's not about denying the pain you've suffered, no. But take your love, take your love. My sweetest bubble, bubble. I'm not responsible for your trouble, no. But I don't wanna stop, no way. I wanna go this way. And it's not about denying your shadows, no. But give your love, give your love.
C'est la fin de cette émission préparée avec les collaborations de Stéphanie Gocci pour la production, de Stéphanie Jovanovic pour les choix musicaux et de Jean-Claude Gailly pour la réalisation. Après les informations dans l'histoire, des histoires choisies, racontées, écrites, parfois, par Lolita. Très très belle soirée à vous tous. On se retrouve mercredi, pas demain. Demain il y a foot. Avis aux amateurs. Ah non, il n'y a pas foot.